Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Ça, c'est quand même un acteur de première force pour tromper autant de monde pendant aussi longtemps.
S'il n'était pas médecin, qu'est-ce qu'il faisait ?
Un mensonge très lourd, hein, déjà pour lui à porter, parce qu'il faut, tricher tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, Jean-Claude Roman, mensonge en série. Les flammes se lancent à l'assaut de la bâtisse, noircissent le crépi, grignotent le toit. Il est environ 4 heures du matin, le 11 janvier 1993, à Prefsin-Moins, un village situé à deux pas de la frontière suisse. Les éboueurs effectuent leur tournée habituelle dans les ruelles de cette commune située à quelques kilomètres de Genève. Quand ils découvrent qu'un incendie a pris chez le docteur Roman, ils appellent aussitôt les pompiers. Au petit jour, sous le regard horrifié des voisins et des amis, les soldats du feu sortent quatre corps du brasier. Deux enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, et leur mère, Florence, ont péri dans les flammes. Il n'y a qu'un seul survivant, le père, Jean-Claude. Il est mal en point. L'homme a sombré dans un coma profond et son pouls est très faible. Une ambulance le conduit en urgence à l'hôpital de Genève. En ce matin de janvier 1993, quelques heures seulement après l'incendie mortel, personne n'imagine encore le terrible engrenage qui a conduit cette famille, bien sous tout rapport, à une issue aussi tragique. Le feu a fait quatre victimes. C'est dramatique. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Mensonge, trahison, dissimulation, une avalanche de révélations va mettre au jour une incroyable mystification. Le lendemain du sinistre, un membre de la famille Roman se rend chez les parents de Jean-Claude pour leur annoncer la douloureuse nouvelle. Mais leur demeure de Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, à 80 km des lieux du drame, semble étrangement silencieuse. Même le labrador de la maison, qui d'habitude fait la fête aux visiteurs, reste invisible. Et pour cause. Là aussi, l'horreur a frappé. En arrivant sur place, les gendarmes découvrent un véritable carnage. Aimé et Anne-Marie, les parents de Jean-Claude, ont été abattus. Ils ont reçu plusieurs balles de carabine 22 longs rifles. Ils gisent dans une mare de sang, recouverts d'un drap. Le chien a subi le même sort. Le bilan s'alourdit. En deux jours seulement, un incendie, 5 morts et aucune explication. Les gendarmes peinent à comprendre la tragédie qui a anéanti la famille Roman. Qui pouvait en vouloir à ces gens qui n'avaient jamais fait parler d'eux ?
On est face à une affaire criminelle orientée contre la totalité de la famille, parents inclus. Donc à partir de là, on sait déjà pratiquement que le nœud de l'affaire, il est à l'intérieur de la famille.
L'enquête commence. D'abord dans la commune de Prefsin. Ici, tout le monde se connaît, se fait la bise. La famille Roman s'y est installée en 84. Elle s'est parfaitement intégrée dans la petite tribu de cadres supérieurs frontaliers profitant des confortables salaires suisses. Jean-Claude Roman est un chercheur réputé à l'Organisation mondiale de la santé. Ses amis disent de lui qu'il a les pieds bien sur terre, comme un sapin de son Jura. Sa femme, Florence, est pharmacienne. Quant aux parents de Jean-Claude, ce sont de paisibles retraités. Jusque-là, rien de suspect. Le mystère reste entier.
Le scénario, c'est une famille qui a l'air heureuse. Belle maison, c'est un médecin réputé, donc belle situation, on est dans le pays de Gex, une jolie femme, de beaux enfants, on peut dire un peu la maison du bonheur.
Les gendarmes s'intéressent alors à la sphère professionnelle de Jean-Claude Roman. Ils veulent interroger ses collègues. Mais à l'OMS, où il est censé diriger des recherches sur les cultures cellulaires, ni la standardiste, ni le service des ressources humaines ne connaissent de Jean-Claude Roman travaillant au sein de l'institution. Ils n'ont pas plus de chance auprès de l'INSERM, où il occuperait le poste de directeur adjoint. Personne ne le connaît non plus à l'Ordre des médecins ou dans les hôpitaux de Paris où il aurait été interne. Pour les enquêteurs, c'est la stupéfaction. Ce n'est pas tout. Sur le pare-brise de la BMW de Jean-Claude Roman, les gendarmes retrouvent un mot. Un accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. Tous les soupçons se portent maintenant sur le père de famille. D'autant que les enquêteurs reçoivent un nouveau témoignage accablant. Celui de Chantal, une dentiste divorcée qui a vécu dans le village de Prévecin avant de s'installer à Paris. Elle leur raconte qu'elle a été la maîtresse de Roman. Deux jours avant l'incendie, elle devait accompagner son amant chez Bernard Kouchner, l'un de ses prétendus amis. En route, ils se sont arrêtés sur une aire de pique-nique à Fontainebleau. C'est là qu'il l'a soudain aspergée de bombes lacrymogènes, puis attaquée avec une matraque électrique. Elle s'est débattue de toutes ses forces, l'a suppliée. Aussi inexplicablement qu'il l'avait agressée, il l'a laissée tranquille. Ce témoignage vient éclairer d'un tout autre jour le profil de Jean-Claude Roman. Petit à petit, les gendarmes découvrent un homme assez éloigné du bon père de famille qu'on leur a décrit les premiers jours de leur enquête. Ils devinent un homme complexe, digne d'un roman noir et dont l'incroyable mythomanie va le conduire à mener une vie de mensonges et d'impostures. Pourtant, quand son procès s'ouvre le 25 juin 1996, le public venu en masse à la cour d'assises de l'Ain se retrouve face à un quadragénaire replet au physique quelconque. Lunettes dorées, crâne dégarni, regard vide, qui semble ne pas comprendre ses actes. Le monstre a le visage de Monsieur Tout-le-Monde.
Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Sur le point d'être découvert, il a préféré tout détruire, pour échapper à la déchéance et peut-être aussi pour éviter la honte aux siens. Lui a raté sa fuite en manquant son suicide, il devra donc assumer l'étrange film de sa vie devant la justice.
Les premières années de sa vie commencent d'ailleurs paisiblement. Il naît le 11 février 1954 à Lons-le-Saunier, une petite ville du Jura. Roman raconte une enfance heureuse. « J'ai reçu le maximum d'amour que des parents peuvent donner. » Fils unique, Jean-Claude est calme et doux. Mais quand son avocat, maître Jean-Louis Abad, lui demande s'il ne souffrait pas de solitude et si son chien n'était pas son seul confident, le suspect s'effondre, agité de convulsions. À la reprise de l'audience, il acquiesce. « Je cachais cela, cette angoisse, cette tristesse. » Petit, Roman ne voulait pas décevoir ses parents, et le mensonge l'aurait pris très tôt, comme dans un engrenage. Il raconte que c'est bien plus tard que sa vie a basculé. En 75, alors qu'il prépare ses examens de deuxième année de médecine, il apprend que sa fiancée, Florence Crollet, veut faire une pause dans leur relation. Déprimé, il ne se réveille pas à temps pour les épreuves. Et quelques semaines plus tard, il rate la session de rattrapage. Il ne lui manquait pourtant que quelques points. Un échec qu'il passe sous silence auprès de ses proches. C'est le début d'une vie de dissimulation. Durant 12 ans, de 74 à 86, Jean-Claude Roman se réinscrit en deuxième année de médecine. Son père, sa mère, ses amis n'y voient que du feu, car le jeune homme donne parfaitement le change. Il continue de se glisser dans les salles de cours. Il fréquente la bibliothèque, compulse les manuels, passe une tête à la faculté lors des examens. Il révise même avec Florence. Et comme personne n'a la curiosité de vérifier ses résultats, la mystification perdure. Il vit de l'argent donné par ses parents, qui lui ont acheté un appartement à Lyon. Une vie d'étudiant presque normale en somme. La suite de son parcours, tout aussi bricolée, est brillante. Il décroche son diplôme de médecine, devient interne des hôpitaux de Paris, reçu 5e, précise-t-il. Sa réussite ne s'arrête pas là. Il est maître de conférences à la faculté de médecine de Dijon, chargé de recherche à l'INSERM de Lyon, puis maître de recherche auprès de l'OMS à Genève. Il a son tampon professionnel au nom du docteur Jean-Claude Roman, et comme tout bon scientifique, il s'abonne à des revues spécialisées pour suivre l'actualité de la recherche médicale. Mais son quotidien ressemble à celui d'un fantôme.
C'est un homme qui n'a pas de sécurité sociale. C'est un homme qui remplit sa feuille d'impôt après son épouse, et comme revenu, il met zéro. C'est un homme qui n'a pas d'existence.
Son CV, sa trajectoire sans faute et sa réussite enviable n'existent que dans sa tête. Jean-Claude Roman n'a ni diplôme, ni situation. Et il lui faut meubler ses journées comme il peut. Il se rend fréquemment à l'OMS avec un badge de visiteur et en profite pour récupérer le moindre fascicule de l'organisation qu'il laisse traîner en évidence chez lui. Il offre une photo du bâtiment à ses parents, avec une croix sur la fenêtre de son supposé bureau. Lorsqu'il ne flâne pas dans les couloirs de l'institution suisse, il patiente de longues heures dans sa voiture, sur des parkings ou des aires d'autoroute. Il demande à sa femme de ne pas l'appeler au bureau, mais de le joindre via une boîte vocale. Quand il part quelques jours à l'autre bout du monde, pour son travail, il dort en réalité dans des hôtels, à quelques dizaines de kilomètres de chez lui. Et il achète toujours un cadeau à ses enfants à l'aéroport de Genève avant de rentrer.
Il mange dans des cafétérias de grande surface, dans des petits restaurants. Il laisse passer le temps jusqu'à l'heure où il doit rentrer chez lui comme rentrant du travail.
Un mensonge très lourd, hein, déjà pour lui à porter, parce qu'il faut, tricher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non mais c'est inhumain, vous devenez fou.
En privé, il se montre modeste. Il parle peu de son travail avec sa famille et ses amis, mais lâche parfois au détour d'une phrase qu'il a l'estime de ses chefs et qu'il connaît des personnalités. Bernard Kouchner est un ami, Laurent Fabius aussi, et Brigitte Bardot lui a dédicacé le buste de Marianne à son effigie. Il a comme médecin personnel le professeur Schwarzenberg qui le soigne d'un cancer qui se révélera inventé de toutes pièces. En 1980, il épouse Florence Crollet, avec laquelle il aura deux enfants, Caroline et Antoine. L'imposteur mène une vie de notable provincial à qui tout sourit. Jean-Claude manie le mensonge en virtuose et prévient tout ce qui pourrait éventer son secret. Son histoire est si bien ficelée que pendant près de 20 ans, aucun de ses proches ne détecte la supercherie. Pour mener le train de vie qui correspond à sa supposée situation, l'imposteur ne manque pas de ressources. Il affirme que sa position en Suisse lui permet de bénéficier d'un incroyable taux de placement à 18% à la banque UOB à Genève. C'est ainsi qu'il réussit à se faire confier de très grosses sommes par ses parents, sa belle-famille et sa maîtresse, Chantal, qui lui remet à elle seule l'équivalent de 190 000 euros. Un pactole qu'il détourne à son profit. Sans jamais avoir travaillé, il achète la maison de Prévecin, se paye de grosses voitures, offre des bijoux et des restaurants de luxe à sa maîtresse. Jean-Claude Roman a également procuration sur les comptes de ses parents, qui ne s'inquiètent pas de ses ponctions régulières. Il le laisse aussi vendre l'appartement lyonnais qu'ils lui ont acheté lors de ses études de médecine. Là encore, il empoche l'argent. Il ne recule devant aucune combine. À un membre de sa belle-famille atteint d'un cancer incurable, il propose un traitement expérimental qui pourrait peut-être le sauver. Le remède coûte 13 000 euros. Roman encaisse la somme. Le malade succombe l'année suivante. La machine à escroquerie semble parfaitement huilée. Mais c'était sans compter le grain de sable qui vient subitement gripper la mécanique. Un jour, sa maîtresse lui réclame l'argent qu'elle lui a confié. Il a déjà tout englouti. Il tente pendant plusieurs mois de gagner du temps, mais se retrouve dans une impasse. Cette fois, le menteur professionnel est à court de mensonges. Il n'a plus qu'une seule issue, disparaître avec les siens. Le 7 janvier, l'avant-veille du drame, il achète une matraque électrique, des bombes lacrymogènes, des cartouches et un silencieux pour la carabine de son père. Le 8, il se procure deux bidons d'essence. Le matin du 9, il défonce le crâne de sa femme couchée dans le lit conjugal à coups de rouleau à pâtisserie. Quand ses enfants se réveillent, il leur dit que leur mère dort encore, lance la vidéo des trois petits cochons et leur prépare des céréales. Puis, il demande à sa fille Caroline de monter dans sa chambre, de se coucher sur le ventre et de mettre sa tête sous l'oreiller, comme pour un jeu. Il tire plusieurs fois avec le silencieux. Il répète le même scénario macabre avec Antoine, qui n'a rien entendu. Ensuite, Jean-Claude Roman range la maison, il relève le courrier et sort acheter le journal, comme si de rien n'était. Mais il n'en a pas encore fini. Roman a aussi ses parents dans sa ligne de mire. Il se rend chez eux pour le déjeuner. Après le repas, il attire son père à l'étage en lui parlant d'une gaine d'aération défectueuse dans une chambre. Tandis que celui-ci vérifie l'installation, il lui tire 2 balles dans le dos. Puis c'est au tour de sa mère qui la bat de face. Ensuite, il gagne Paris et agresse Chantal, sa maîtresse, en forêt de Fontainebleau. Le lendemain, il reste longuement devant son téléviseur, zappant frénétiquement, avant de tenter de l'appeler. Lorsqu'il réussit enfin à lui parler, il lui promet de se faire soigner afin de sortir de la dépression qui le rend violent. Mais lorsque la nuit tombe, il asperge d'essence le grenier, l'escalier, les corps de son épouse et de ses enfants, met le feu et avale 20 de somnifères. Il dit avoir voulu s'allonger près de sa femme, mais la fumée l'aurait poussé à ouvrir la fenêtre. Les pompiers arrivent, il perd connaissance. Denis Toutenu, l'un des 5 psychiatres qui ont expertisé Jean-Claude Roman, explique dans un entretien au quotidien suisse Le Temps le geste fou du quintuple meurtrier. Dans un système complètement narcissique, perdre la face et son image équivaut à tout perdre. Tout puissant dans la mythomanie, il allait basculer dans la toute impuissance. Il nous disait « Je voulais me suicider, mais ma mort allait faire souffrir mes proches. Ils devaient donc mourir avec moi. » Dans son système égocentrique, sa femme et ses enfants étaient davantage des prolongements de lui-même que des personnes distinctes. Dans cette optique, les faire disparaître, c'était se faire disparaître.
Tout s'effondre à partir du moment où on exige de lui qu'il rembourse l'argent qu'il n'a pas. Il est arrivé au stade où on va savoir qu'il n'est pas médecin, qu'il n'a pas de revenus, qu'il n'a pas de ressources, qu'il vit depuis des années en escroquant de l'argent à son entourage.
Tout ça fait qu'à un moment donné, l'étau se resserre et qu'il va falloir affronter la vérité. Cette vérité, elle est indicible. Comment voulez-vous expliquer à votre épouse, à vos enfants qui vous aiment, à vos parents qui vous aiment, que vous leur mentez depuis 20 ans?
Lors des audiences, toutes ces révélations laissent l'entourage de Jean-Claude abasourdi. Son meilleur ami, Marc, n'a d'abord pas voulu y croire. Les témoignages et les preuves accablantes ont été inventées ou falsifiées. La police a mal fait son travail. Il connaît Jean-Claude depuis 20 ans. C'était son voisin et le parrain de sa fille. Jean-Claude lui rendait souvent visite, se confiait à lui. Il lui avait d'ailleurs parlé de sa maîtresse. L'imaginer, lui, si réservé, si tempéré, dans la peau d'un assassin, trucidant parents, femmes et enfants? Impossible. Mais à mesure que les informations circulent, Marc doit se rendre à l'évidence. L'homme l'a mystifié quasiment depuis leur rencontre. À tous ceux qu'il a ainsi embobinés, Jean-Claude Roman fournit assez peu d'explications. Une formule revient régulièrement quand on l'interroge. « Je sais, ça paraît invraisemblable. Je me suis posé cette question tous les jours pendant 20 ans. » Parfois, il s'adresse à la cour les yeux mouillés. Mais peut-on croire à sa sincérité? Impossible de le savoir. Il n'y a souvent que sa version des faits, et il semble s'y accrocher désespérément, en mystificateur perdu dans le labyrinthe de ses propres falsifications. Le 2 juillet 1996, après 2 semaines de procès, la cour condamne Jean-Claude Roman à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.
Vous ne pouvez jamais être satisfait lorsque un accusé repart avec une peine pareille, parce que c'est une peine d'élimination, c'est une peine terrible, puisque Jean-Claude Roman, je me demande s'il sortira un jour de prison, donc je ne peux pas être satisfait.
Après ce verdict qui a été très chargé en émotions, il faudra essayer de tourner une page. Tout du moins, essayer d'oublier Jean-Claude Roman.
La justice est passée, mais la vérité n'a pas totalement éclaté. Le mystère qui entoure la personnalité hors norme de Jean-Claude Roman demeure. C'est à Saint-Maur, dans la banlieue de Châteauroux, que l'homme va purger sa peine. Derrière les barreaux, il travaille à la bibliothèque, restaure et numérise des documents sonores pour l'Institut national de l'audiovisuel. À l'occasion, Jean-Claude Roman fait office de toubib auprès de ses co-détenus qui ont pris l'habitude de le consulter lorsqu'ils ont mal quelque part. Il ne se trompe jamais de diagnostic, paraît-il. Libérable depuis 2015, il est resté en détention jusqu'en juin 2019. Son histoire a fait l'objet d'une dizaine de livres, films, documentaires et pièces de théâtre. Roman, qui rêvait d'une vie plus grande que la sienne, a finalement été servi. Ce texte, écrit par Léo Pajon et adapté par Elsa Delavergne et Bénédicte Aubry, a été enregistré par Diane Mottez, mixage de Lucas Vibo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous attendons vos réactions, commentaires. N'hésitez pas aussi à le noter sur les plateformes et à en parler autour de vous. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Faits d'hier.